Merci Eric et bonjour à tous. Alors, voilà, je prépare mon texte, c'est bon. Alors, si je veux vous parler de Corneille et de Pierre ce matin, c'est pour que nous puissions réfléchir à la façon dont nous réagissons lorsque Dieu nous parle. Donc, j'attends le... Voilà. Je ne sais pas si vous, vous vous êtes déjà posé la question, peut-être que vous vous dites que Dieu ne vous parle pas. En fait, avec Hervé, depuis le 1er janvier, chaque matin, on lit une méditation tirée de ce livre qui s'appelle « Entendre Dieu jour après jour ». Et c'est vrai qu'il nous est parfois bien compliqué d'imaginer que notre Dieu si saint, si puissant s'adresse à nous. C'est compliqué de comprendre comment il peut le faire. On se sent tellement insignifiant. Bon, il faut quand même convenir que Dieu nous a parlé, parce que si nous sommes là, c'est qu'il s'est révélé à nous. Donc finalement, il a parlé à chacun d'entre nous. Et nous avons, pour la plupart, accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Il nous parle par sa parole aussi lorsque nous lisons la Bible ou entendons des versets bibliques. Donc, on a tous l'expérience que ça nous est arrivé à un moment ou à un autre. Mais pour autant, on a du mal à imaginer que Dieu peut nous parler pour des circonstances particulières qui sortent de l'ordinaire. Alors, ce que j'aimerais considérer avec vous ce matin, c'est la façon dont nous réagissons lorsque Dieu nous parle. Est-ce que nous faisons comme les deux frères dans la parabole des deux fils ? Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est dans Matthieu chapitre 21, les versets 28 à 32. Il y en a un qui dit oui à l'ordre que son père lui donne, et il fait rien. Alors que l'autre, il fait comme s'il n'a pas entendu, mais finalement il obéit. Ou bien est-ce que nous sommes attentifs, sachant que notre obéissance apportera un fruit bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer? Alors essayons de répondre à ces interrogations avec le texte que nous trouvons dans Actes 10. Il est un peu long, ce sont les versets 1 à 23. Donc j'espère que vous arrivez à lire, sinon vous pouvez chercher dans votre Bible. Donc Actes 10, les versets 1 à 23. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille !» Corneille le regarda. Et tout tremblant demanda, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit, « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu, et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi, maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon, que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. » Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, oui, parce qu'il y a plusieurs diapos, excusez-moi, donc je ne voulais pas vous priver de texte. Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. »« Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par trois fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon, et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'esprit lui dit « Écoute, il y a trois hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors Pierre descendit et se présenta en disant « Me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venu ?»«
Nous venons de la part du centurion Corneille, » répondirent-ils. « C'est un homme droit qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. » Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. Donc vous avez remarqué que le texte que je vous ai projeté est un peu différent de ce que j'ai lu, parce que ça c'est la seconde 21, et j'ai lu la Bible Semeur. Ça nous permet aussi de voir un peu autrement le texte, d'avoir plusieurs versions. Alors vous connaissez sans doute cette histoire dont on retient la plupart du temps une partie du verset 15. On la connaît parce que ce qu'on sait, c'est que ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Et voilà, c'est tout ce qu'on retient du texte souvent. Eh bien, ce n'est pas de ça qu'on va parler ce matin. Mais plutôt de la réaction de chacun des personnages face à ce qui lui est demandé. On va les voir dans leur ordre d'apparition, Corneille, ses serviteurs et enfin Pierre. Et on verra comment Dieu leur parle, comment il pourrait nous parler. Et puis nous nous demanderons dans quel but Dieu intervient dans leur vie, dans notre vie. Alors Corneille, c'est un officier romain et ce qui lui arrive nous est présenté dans les versets 1 à 6. Ce que le texte ne nous dit pas, qu'il est inutile de préciser pour les contemporains de Luc, le rédacteur présumé du livre des Actes, c'est l'impureté rituelle de cet homme. Le fait que, normalement, un juif ne va pas chercher à entrer en contact avec lui. Lui, il craint Dieu, mais il n'est pas juif, donc il n'est pas pur. Et le fait qu'il va être difficile pour lui d'envoyer chercher quelqu'un chez les juifs pour le faire entrer chez lui. Les lois de purification rituelle de l'époque ne pouvaient pas permettre à ces deux hommes, Corneille et Pierre, de se retrouver en intimité. En effet, les juifs n'avaient pas de relation avec les non-juifs, de peur d'être alors impurs et de ne pas pouvoir se rendre au temple ou à la synagogue. Par contre, Corneille, lui, il a bien regardé comment les juifs adorent Dieu. Et il a adopté cette façon de croire en Dieu. Et avec un effet immédiat sur ses proches, parce que toute sa maison suivait son exemple. Et il était généreux, d'une façon que Dieu va louer par la bouche de l'ange qui lui apparaît. Vraiment, il avait une relation personnelle avec Dieu. Il priait sans cesse et ses prières sont reconnues par Dieu. Et encore une chose qu'on ne peut pas savoir au XXIe siècle, l'ange lui apparaît vers 3 heures de l'après-midi. Et c'est important de le préciser, parce que c'est exactement le moment où tous les Juifs sont censés se tourner vers Dieu pour prier. C'est l'heure du sacrifice du soir. Et c'est à ce moment, qui n'est pas anodin, que Dieu envoie un ange pour apparaître à Corneille. On voit bien que Dieu est investi dans la relation avec Corneille. Ses prières, son aumône, les choses qu'il fait conformément à la loi juive, ne lui sont pas indifférentes. Il les reçoit et il a envie que Corneille aille plus loin. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas la nationalité de Corneille, sa fonction, mais c'est la nature de leur relation. Les serviteurs de Corneille. Corneille les envoie immédiatement. Alors, on a tendance à imaginer qu'un maître ne raconte pas ce qui lui arrive à son personnel. Il donne un ordre et ceux-ci obéissent. Pourtant, on note qu'il y a une relation particulière qui lie tous ces personnages. Corneille prend le temps de leur expliquer ce qui s'est passé. Ils ne sont pas des simples exécutants de ses ordres. Ils font pleinement partie de sa vie. Il a des égards pour eux. Et on voit bien que c'est une relation de proximité, de confiance. On ne nous dit pas qu'ils vont prendre la route en se disant « Oh là là, il nous casse les pieds, le maître. J'avais prévu un bon repas à la maison ce soir. Ma fille devait venir avec ses enfants. » Ou « Ma femme est malade, je n'ai personne pour veiller sur elle. » Ou « Que sais-je ?» Non, au contraire, ils savent exactement ce pourquoi ils sont missionnés, ils prennent la route. Corneille, voyant que Dieu lui donne les détails nécessaires, fait de même avec ses serviteurs, qui comprennent ainsi la portée de leur mission. L'exemple et la confiance sont une bonne motivation pour eux. Ils savent que Dieu a parlé et ils font ce qui leur est habituel. Ils obéissent. Enfin, Pierre, il loge à Jaffa au moment où Dieu s'adresse à lui. Alors, peut-être que vous ne maîtrisez pas bien la géographie locale. Jaffa, c'est à une cinquantaine de kilomètres au sud de Césarée. Et Césarée, c'est vraiment une ville de garnison romaine, vous voyez, avec un beau plan et tout, une reconstitution de la ville. Alors que Jaffa, c'est un grand port marchand de l'époque. Les serviteurs de Corneille mettront quelques heures pour y parvenir, puisque c'est vers midi, le lendemain, qu'ils arrivent à destination en empruntant les routes romaines sûres et bien pavées. Pierre, il avait un caractère bien trempé. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié le personnage, mais il avait même la mauvaise habitude de dire non au Seigneur. Si vous doutez de ce que je dis, vous pouvez trouver ça en Matthieu 16, le verset 22, en Jean 13, 8, hein, quand Jésus veut laver les pieds à Pierre, et Pierre il dit « Ah non, non, Seigneur !» Donc il ne se gêne pas, il est très cash devant le Seigneur, et il lui dit non. On va voir que cette fois, il ne fait pas mieux. On peut se dire aussi qu'il obéit aux règles quand ça l'arrange. On l'a déjà vu, à cette époque, il n'est pas permis aux Juifs de fréquenter les non-Juifs à cause de la pureté rituelle. Donc on a vraiment l'impression que Pierre a à cœur d'obéir à ses lois en lisant le texte. Et pourtant, on apprend qu'il loge chez un tanneur. Or, les tanneurs, à cause de leur contact avec des cadavres d'animaux, étaient considérés comme rituellement impurs. Leur métier était souvent méprisé. On ne comprend donc pas toujours certaines prises de position ou attitudes de l'apôtre. Malgré tout, lui aussi a une relation authentique avec Dieu. C'est à midi, il est monté sur le toit-terrasse de la maison pour prier. C'est donc aussi à ce moment-là un temps normal de prière, et c'est dans ce temps de prière que Dieu choisit de lui parler. Et vous vous souvenez, c'est parce qu'il attend le repas qu'on apprête pour lui. Alors maintenant qu'on a fait un peu connaissance avec les personnages, voyons leur réaction lorsque Dieu s'adresse à eux. Avez-vous remarqué dans le texte que nous avons lu que Corneille ne remet pas du tout en cause le fait que Dieu puisse s'adresser à lui et que ce qu'il voit vient de Dieu ? Il lui dit tout de suite « Seigneur hein. ». Il est étonné, effrayé, mais jamais dans le déni. Il regarde bien l'ange qui lui apparaît, il l'appelle « Seigneur ». Montrant son respect et son attention envers lui. Il me fait penser à Marie, à qui l'ange est apparu pour annoncer la naissance de Jésus. Elle a tout de suite dit « Seigneur », elle a compris qui c'était, elle s'est pas posé de questions. Alors Corneille, il agit immédiatement conformément à ce qui lui a été demandé. Il envoie ses serviteurs chercher Pierre à Jaffa. Comparez la réponse de Pierre à Dieu. Certainement pas, Seigneur, avec la réponse de Corneille. Qu'y a-t-il, Seigneur ? Corneille semble avoir été bien plus réceptif à Dieu que Pierre ce jour-là. Et pourtant, Pierre comprend exactement à qui il a affaire. Il a reconnu la voix de Dieu. Mais tout comme il avait osé dire non à Jésus, il dit non à Dieu devant cette vision. Bien qu'au fil des ans, son caractère se soit adouci, les vieux réflexes reviennent. Pourtant, il a confiance en Dieu, il a vu des miracles, hein, puisqu'il a fait revenir Tabitha à la vie lorsque lui-même à prier. Il connaît la puissance de Dieu, mais là, devant une vision qui ne lui convient pas, il dit non. En fait, Pierre a presque mis Dieu dans une boîte de limitation et Dieu doit le secouer pour changer sa façon de penser. Il peut faire la même chose pour nous. Pierre a été sauvé, Pierre a été rempli du Saint-Esprit et Pierre a été grandement utilisé par Dieu. En même temps, Pierre était toujours Pierre. Dieu ne l'a pas utilisé parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était dans la bonne direction et qu'il était malgré tout disponible. Et souvenez-vous, Dieu n'a pas dû dire les choses une seule fois à Pierre, mais bien trois fois. Et lorsque la vision s'est arrêtée, Pierre n'est toujours pas convaincu. On peut lire, Pierre restait perplexe sur le sujet de la vision qu'il avait eue. Bon, je vous l'accorde, si moi j'avais été à sa place, je ne sais pas comment j'aurais réagi non plus. Hein. Et vous ? Cela nous rappelle une autre histoire qui s'est, elle aussi, passée en partie à Jaffa. On vous dit quelque chose, le nom de Jaffa, avec une autre histoire de quelqu'un qui n'a pas obéi ? Non ? Il y a des siècles, un autre juif était venu à Jaffa, porteur d'un message solennel de son Dieu, qu'il était chargé d'apporter loin de là à des non-juifs. Jonas, le prophète, qui prit un bateau de Jaffa et refusa d'obéir à l'appel divin pour un temps. La difficulté à entendre Dieu provient aussi parfois de ce qu'on est prêt à entendre. Il y a certaines choses qu'on n'est pas prêt à accepter. Dans 1 Samuel 3:1, on peut lire « La parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. » Pensez-vous que Dieu n'avait rien à dire à ce moment-là ? C'était à l'époque d'Élie et il faut dire que Élie, le sacrificateur, n'était pas prêt à entendre certaines choses que Dieu pourtant lui avait déjà dites. Et comme son cœur s'était endurci, il n'entendait plus. Il était devenu comme insensible à la voix de Dieu. Dieu va donc passer par Samuel, qui a un cœur tendre, ouvert, docile, modelable. Ce que Dieu avait à dire à Samuel à l'intention d'Élie n'était pas facile à entendre. Est-ce que nous sommes prêts à tout entendre ? C'est-à-dire à prendre en compte tout ce que Dieu va nous dire sans faire aucun tri ni aucune sélection ? Nous avons vu que dans la conception de l'Ancien Testament, il y avait le pur et l'impur. Pierre ne veut pas se souiller. Sa compréhension de ce que Dieu dit s'arrête d'abord à ses limites à lui, à sa propre personne. Moi, je ne me souille pas. Est-ce qu'on n'a pas parfois la même attitude lorsque Dieu nous parle, que nous comprenons qu'il s'adresse à nous ? Nous regardons d'abord ce que cela nous coûte. Nous n'obéissons pas tout de suite parce que ça va déranger notre petite vie bien ordonnée. Hervé et moi, on en a fait l'expérience et je vous l'ai peut-être déjà raconté alors que nous habitions à Reims. On était revenus de 6 années d'engagement missionnaire au Cameroun, déçus et dépités par l'attitude des frères et sœurs camerounais que nous avions du mal à comprendre. Nous mettions vraiment en doute l'appel que nous avions reçu de Dieu pour le servir au Cameroun. Nous nous sommes donc installés à Reims où Hervé avait trouvé du travail. Les mois passaient et nous constations jour après jour que tout en France n'était pas aussi rose que la vie d'église que nous avions idéalisée lorsque nous étions au Cameroun. C'est même arrivé au point où le plus jeune de nos deux pasteurs a donné un coup de poing au plus âgé dans la cour de l'église. C'est là que Dieu nous a à nouveau parlé. Un matin, après avoir emmené nos enfants à l'école, j'ai entendu une voix me dire « Il faut que vous retourniez au Cameroun ». Et je vous assure que vous avez du mal à croire que ça puisse arriver, mais je me suis même retournée pour voir qui me parlait. Et cette parole s'est inscrite dans mes pensées durant des jours, des semaines, des mois. Elle ne m'a pas laissée en repos. Longtemps, j'ai lutté, opposant des arguments à ce nouveau départ. Mais finalement, on est reparti pour servir pour servir Dieu durant 15 années dans ce pays qu'il a mis dans notre cœur. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui me retenait au fond de moi, c'est que je n'avais pas envie de changer à nouveau de vie, changer mon quotidien, même s'il n'était pas parfait. Pierre, lui, ne voyait pas qu'il fallait renoncer à des croyances, des lois que Jésus était venu balayer par son sacrifice sur la croix pour tous les hommes. Corneille, lui, il n'a pas hésité, parce que ce qui était en jeu dépassait de loin son confort personnel. Il lui fallait rencontrer le seul vrai Dieu, le connaître encore plus parfaitement que ce qui lui était déjà donné. Et voilà, c'est là où nous amène cette méditation. Réfléchir ce matin sur pourquoi Dieu nous appelle, sur ces enjeux qui nous dépassent. Oui, lorsque nous entendons, nous discernons la voix de Dieu, notre première réaction, c'est parfois de mesurer ce que ça va nous coûter, pas ce que ça pourrait nous apporter d'obéir. Mais Pierre, le grand serviteur de Dieu, finit par comprendre. Dieu envoie vers lui des hommes impurs. Et quelle est finalement sa réaction ? Il les laisse entrer chez lui. Dès que Dieu l'avertit que des hommes sont à la porte, à sa recherche, il se rend disponible pour eux. Et le verset 23 nous dit qu'il leur offrit l'hospitalité. Quel revirement dans son attitude ! Ces hommes sont eux aussi des non-juifs, donc impurs. Il accepte leurs explications, signe que l'Esprit de Dieu commence à faire son chemin en lui, il les fait entrer et les loge. Et on peut voir ainsi le changement dans le cœur de Pierre par la façon dont il le fait, parce que le loge, ce mot hospitalité, dans le contexte de l'époque, signifie littéralement « accueillir comme invité ». Pierre ne se contente pas de donner froidement une chambre à ses visiteurs non-juifs. Il les reçoit comme des invités bienvenus. Et il fait cela à l'encontre de toutes les coutumes de l'époque. En recevant ses invités, Pierre va à l'encontre des coutumes des traditions d'Israël, mais pas à l'encontre de la parole de Dieu. Il est possible qu'à ce moment précis, Dieu ait enfin inondé le cœur de Pierre d'une compréhension qui lui permettait de comprendre que même si l'Ancien Testament disait que le peuple de Dieu ne devait pas devenir comme ses voisins païens, il disait aussi que Dieu voulait que son peuple devienne une lumière pour ses voisins qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Et est-ce que nous, on n'est pas comme Pierre, lent à comprendre, à accepter ce que Dieu nous demande, nous aussi ? Alors, une autre anecdote de ce qui s'est passé au Cameroun. Nous étions retournés au Cameroun après 6 années en France et nous avons habité la ville de Mokolo. Le pasteur qui y était en poste était celui avec qui nous étions amis à Maroua lorsque nous avions quitté le pays en 91. Nous nous connaissions vraiment bien et nous nous apprécions. C'était réellement une bénédiction pour lui et pour nous de nous retrouver ensemble dans la même ville. Et au bout de quelques mois, il m'a demandé d'animer l'étude biblique pour les femmes à l'église. Mais je ne pensais pas en être capable puisque je n'avais pas fait d'école de théologie, d'institut biblique. Lors de notre congé en France, j'ai dû être opérée d'une hernie discale ici à Clermont-Ferrand. Je me souviens même de Monique qui m'a visitée à l'hôpital à ce moment-là. Et à notre retour au Cameroun, je suis tombée dans une profonde fatigue. Et 10 jours durant, je ne pouvais plus me lever tellement j'étais affaiblie. Je pouvais juste lire ma Bible durant 10 minutes, prier et m'endormir à nouveau 3-4 heures d'affilée. Et c'est là, dans cet état de faiblesse intense, que Dieu m'a rappelé cette sollicitation de notre pasteur camerounais. Et j'ai finalement compris que c'était Dieu qui m'avait parlé la première fois par sa bouche, que c'était à Dieu que je devais dire oui et non au pasteur. Et j'ai obéi. Je garde encore la nostalgie de tous ces moments passés à enseigner la Bible aux femmes, à les aider à s'approcher de Dieu. C'est ainsi que petit à petit, il m'a été confié plus de responsabilités. Alors, est-ce que c'était pour cette sorte d'autosatisfaction, hein, montée en grade, que Dieu m'avait appelé ? Non, bien sûr. Au fur et à mesure de ces rencontres, je me suis retrouvée face à des femmes qui étaient responsables, des présidentes, des secrétaires, des trésorières, de groupes de femmes à tous les niveaux, local, régional, national, mais qui n'étaient pas réellement converties, qui vivaient selon des règles, mais qui n'étaient pas libérées du poids de leur fardeau, de leur péché. Alors, finalement, le diable s'est déchaîné, nous avons dû quitter le Cameroun. Mais Dieu a permis que des graines soient semées et que sa parole soit annoncée. C'était cela son but. J'espère pour ma part avoir obéi correctement à son appel pour pouvoir retrouver de nombreuses sœurs le jour où Jésus reviendra. Oui, si Dieu nous appelle, c'est pas parce qu'on est capable ou meilleur. C'est parce que des femmes et des hommes autour de nous ont besoin d'entendre sa parole pour venir à lui. Et c'est cela qui se révèle sous nos yeux dans le livre des Actes. Parce que Pierre a accepté de se soumettre à ce que Dieu lui a montré, alors les païens, ceux qui ne sont pas juifs, obtiennent de façon visible, claire et permanente le droit de faire désormais partie du peuple de Dieu. Alors que la loi juive les déclarait impurs à vie, Dieu les déclare purs. Si Pierre n'avait pas obéi à ce que Dieu lui demandait, ce peuple étranger n'aurait pas peut-être pas là ce matin. Nous-mêmes, nous n'en avons pas toujours conscience, nous mettons des barrières lorsque Dieu nous parle. Nous sommes alors comme Pierre, nous nous cachons derrière des lois en pensant qu'elles nous protègent. Nous mettons nos propres filtres entre l'appel de Dieu et nous. C'est ce qui s'est d'abord passé pour Pierre. Son filtre, c'était la loi, la Torah. Nous aussi, nous nous laissons enfermer par nos propres lois. Ou bien nous nous laissons prendre par la philosophie, le mode de vivre et de penser du monde moderne. Nous sommes environnés de fake news et nous ne savons plus vraiment discerner la voix de Dieu dans tout ce que nous entendons. Alors, en pensant à ça, cette semaine, j'ai vraiment été touchée par un reportage sur le massacre qui a fait rage entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda il y a tout juste 30 ans. Un homme qui s'était repenti depuis témoignait qu'il avait participé froidement au massacre de plusieurs familles dans son village, car le gouvernement déclarait que l'ethnie Tutsi n'était en fait qu'une sous-race qui n'avait pas droit au chapitre. Il avait donc massacré hommes, femmes et enfants sans le moindre état d'âme, car pour lui, c'était juste comme tuer un serpent venimeux. Cela nous semble tellement incroyable. Comment, à notre époque, cela peut s'entendre ? Imaginez qu'il puisse y avoir un tel lavage de cerveau. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas ce qui se reproduit actuellement dans d'autres pays ? Est-ce que les fake news ne sont pas présentes dans notre société ? Dans l'Église, peut-être ? Ne soyez pas étonnés que je dise cela, hein. Ce n'est pas nouveau. On trouve dans le psaume 35, « De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Je suis abandonné de tous. » Déjà dans les temps anciens, on mentionne de telles pratiques. Je pense qu'elles sont juste exacerbées actuellement. Et je me suis demandé si nous n'étions pas victimes de tels comportements dans nos milieux chrétiens, au point que cela nous empêche de discerner la voix de notre Seigneur. Nous focaliser sur ce que Dieu nous révèle, sur sa vérité à lui, parfois bien différente de la nôtre, nous permet de continuer à être les témoins qu'il veut que nous soyons. Pierre a laissé tomber ses filtres. Alors est-ce que ce matin, nous voulons abandonner les nôtres ? En conclusion, j'aimerais revenir à la question posée en introduction. Comment agir lorsque Dieu nous parle ? Vous l'aurez compris, ce matin, je souhaite nous encourager à répondre comme le jeune Samuel. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et je nous invite à aller plus loin en regardant non pas l'obéissance que nous allons apporter à notre réponse à Dieu, mais les conséquences que cette obéissance va produire. Pierre a écouté Dieu, il a fini par aller chez Corneille, qui sera baptisé, lui, ainsi que toute sa maisonnée. Cela aura des conséquences pour tout le monde chrétien qui, jusqu'à nos jours, continue à se construire avec tous ceux et celles qui entendent sa voix. Ne regardons pas à notre propre personne, à ce que cela nous coûte. Essayons de laisser notre regard se poser plus loin, vers l'horizon que Dieu nous propose. Devenir les acteurs d'une vie de foi, de paix, de salut, pour toutes les personnes qui sont toutes proches de nous ou plus lointaines, et qui pourront témoigner à d'autres que Dieu les aime. Et peut-être que ce matin, vous n'avez pas encore fait ce pas de foi, celui que Corneille a accompli en envoyant chercher Pierre, puis en le recevant chez lui, et en écoutant ce qu'il avait à lui dire à propos de Dieu. Alors n'hésitez plus. En obéissant à Dieu, Corneille a enfin trouvé un sens à sa vie. Il n'a pas gardé cela pour lui, mais il l'a partagé à toute sa maisonnée. Pour ma part, je me croyais trop indigne de Dieu, il ne pouvait pas s'intéresser à moi, je n'arrivais pas à lui ouvrir mon cœur, jusqu'au jour où ce verset m'a percutée. Jésus disait, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce verset, c'est dans Apocalypse 3:20. C'était si simple de laisser Dieu entrer dans ma vie. Il en est de même pour chacun de nous. Que Dieu parle à chacun de nos cœurs et que nous, pour notre part, nous soyons prêts à l'entendre et à agir selon sa volonté. Amen.